Vous écoutez RMC.
Et c'est l'heure du journal de Clément Gouitz. Bonjour Clément.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Faire débuter les journées à 9h pour les collégiens et lycéens, l'idée fait son chemin. Le ministre de l'Éducation nationale s'y dit favorable avec un objectif: respecter davantage le rythme des adolescents et améliorer leur sommeil. La France veut accélérer l'électrification, un plan massif de 10 milliards d'euros par an d'ici à 2030. Objectif: sortir au plus vite de sa dépendance au gaz et au pétrole. Douleur et recueillement à Juniville, dans les Ardennes, village où a grandi le caporal-chef Anissé Girardin, mort après une embuscade il y a 6 jours au Liban.
Et si les cours au collège et au lycée commençaient à 9h?
Une piste soutenue par le ministre de l'Éducation nationale pour mieux respecter le rythme et le sommeil des élèves. Mais pas pour la rentrée prochaine, une proposition également poussée par différentes associations. Alors concrètement, qu'est-ce que ça changerait? Sarah Bélien a posé la question aux principaux concernés.
Élève en classe de 3e, Ilias n'est pas très matinal.
Quand je commence à 8h, le premier cours, souvent soit je m'endors, soit j'écoute pas trop. Alors qu'à 9h, je suis à l'affût.
Pour lui, commencer plus tard n'aurait que des avantages.
Prendre mon petit déj, bien me réveiller, avoir plus de temps de sommeil.
Et plusieurs envisagent déjà de réorganiser l'emploi du temps de leur soirée.
Pour le soir, il faut dormir plus tôt, préparer les devoirs. Il y a beaucoup de charge mentale.
Mais je peux passer beaucoup plus de temps avec ma famille.
Si cette proposition fait globalement l'unanimité, Isabella, élève de première, reste mitigée.
Je me dis, si les cours commencent à 9h, ça veut dire que du coup, les journées vont être encore plus longues.
Car là est tout l'enjeu. Un collège de Dijon teste cette mesure depuis la rentrée avec les élèves de 4e et de 3e. Sophie Pizzolo, directrice de l'établissement, constate une meilleure concentration des adolescents.
Sur le temps du matin, sur les 4e, 3e, on a moins d'incidents.
Mais pour elle, les rythmes scolaires doivent être repensés plus largement.
On sait qu'en France, on est quand même un pays où on a le plus de volume horaire à la journée. Donc c'est toujours la question de la quantité contre la qualité.
Question qui sera un sujet de la présidentielle de 2027 pour le ministre de l'Éducation nationale.
La France mise sur l'électrique, un plan massif de 10 milliards d'euros par an d'ici à 2030, dévoilé par le gouvernement dans un contexte de crise et de guerre au Moyen-Orient. Objectif: électrifier partout, des bâtiments aux transports jusqu'aux usines et aux champs. Une vingtaine de mesures dévoilées par le gouvernement. Gouvernement Sébastien Krebs qui veut sortir au plus vite de la dépendance aux énergies fossiles.
Oui, accélérer parce qu'il y aura d'autres crises énergétiques à l'avenir, résume un conseiller, d'autant que la France produit déjà plus d'électricité qu'elle n'en consomme. Alors sur la route, l'électrique doit devenir l'évidence, explique le gouvernement. Le leasing social sera relancé pour les plus modestes, des aides à l'achat ouvertes aux professionnels, 10 000 euros pour une camionnette électrique, jusqu'à 100 000 euros pour un camion, et les bornes de recharge seront multipliées par 5. Le gouvernement veut aussi électrifier les tracteurs, les bateaux de pêche, les engins de chantier, aider les boulangers à changer de four à pain et éliminer le chauffage au gaz des logements. Il sera désormais interdit dans le neuf et après une rénovation financée par MaPrimeRénov. En tout, 10 milliards d'euros d'aides par an d'ici à 2030. De quoi créer 600 000 emplois, espère le gouvernement, car ces dispositifs seront tous fléchés vers des équipements fabriqués en France ou en Europe.
Et le gouvernement desserre l'étau sur les passoires thermiques. Les logements classés F et G au DPE pourront être remis en location, mais à une condition: des travaux de rénovation énergétique engagés dans les 3 à 5 ans. Objectif, remettre des centaines de milliers de logements sur le marché sans renoncer à la transition écologique. Prolongation de 3 semaines du cessez-le-feu entre le Liban et Israël. Un accord a été trouvé cette nuit. En revanche, de nouvelles explosions ont été entendues en Iran, selon les médias iraniens, alors que le cessez-le-feu est toujours en vigueur. Leur origine reste inconnue. Israël dément avoir attaqué. Et Donald Trump assure avoir tout son temps pour lever le blocus du détroit d'Ormuz et assure qu'il n'est pas question d'utiliser l'arme nucléaire. Et l'émotion est toujours vive après la mort du caporal-chef Anissé Girardin. Ce soldat français a succombé à ses blessures mercredi après une embuscade au Liban il y a 6 jours. Il faisait partie du 132e régiment d'infanterie de Suippes dans la Marne et a grandi à Juniville, dans les Ardennes. Justement, Cassandre Brault, envoyée spéciale RMC, s'est rendue sur place où les habitants sont toujours sous le choc.
Depuis le décès de Anissé Girardin, Bruno Rochon, le maire de Juniville, a mis les drapeaux de la commune en berne.
Anissé, c'est un enfant du village, donc il a grandi au sein de Juniville.
Submergé par l'émotion, c'est encore difficile pour lui de trouver les mots pour raconter le petit garçon qu'il était, le fils du boulanger du village.
C'était un petit garçon toujours avec le sourire, qui rendait service avec sa maman. C'est lui, des fois, qui rendait la monnaie.
Si Anissé Girardin a grandi à Juniville, c'est à la Chèpe qu'il habitait avec sa compagne et son enfant de 2 ans. La petite famille vivait juste à côté de chez Thierry.
On a sympathisé tout de suite. On a, avec les deux chiens, en fait, on s'est rencontrés. Puis voilà. Lui, il était souvent absent, donc il était souvent en mission. Je pense qu'il aimait très bien son métier.
Et Thierry a aussi une pensée pour le fils du militaire qui va grandir sans son père.
Je l'ai vu faire du vélo il y a une semaine avec sa mère. Et il dit, bah, tiens, ça y est, il fait du vélo. On se rend pas compte, la vie passe. Et des fois, on se dit, mince, on aurait dû se rencontrer plus tôt. Quoi.
En attendant de pouvoir participer à un hommage, Thierry a planté un drapeau dans son jardin pour honorer la mémoire du militaire décédé.
Un hommage national lui sera rendu. La date n'a pas encore été fixée. RMC 7h36, une enquête ouverte après la mort d'un piéton à Sartrouville dans les Yvelines. Un homme de 81 ans a été mortellement percuté par une voiture de la BAC en pleine course-poursuite. La victime traversait sur un passage piéton en sortant de la mosquée. Et Maxime Cliaruza, une question est au cœur de l'enquête. La vitesse des policiers au moment du choc.
Oui, il est presque 23h ce mercredi quand Mohamed traverse un passage piéton en sortant de la mosquée. C'est à ce moment-là que des policiers engagés dans une course-poursuite le percutent avant de lui porter secours. Selon les témoins, le véhicule de la BAC circulait à vive allure sur cette route pourtant limitée à 50 km/h. En atteste l'état de la voiture, comme l'explique l'un des fils de la victime.
Le pare-choc était défoncé sur une partie du véhicule et le rétroviseur était aussi parti en éclats. À quelques mètres du passage piéton, gisait le corps de mon père qu'on découvrait ici, inanimé. Et nous, les cinq enfants, nous étions en train de voir ce spectacle macabre.
Deux enquêtes ont été ouvertes, dont l'une confiée à l'IGPN, la police des polices. Selon les premiers éléments de l'enquête, les tests d'alcoolémie du conducteur étaient négatifs et le gyrophare allumé. Les proches de la victime promettent de ne rien lâcher tant que toute la lumière ne sera pas faite sur cette affaire.
La Fédération française de rugby convoquée aujourd'hui à Agen dans l'enquête sur la disparition de Medine Argissi en 2024. Son président, Florian Grill, doit être entendu avec la possibilité d'une mise en examen pour homicide involontaire. Medine Argissi a été emporté par l'océan lors d'un stage de l'équipe de France des moins de 18 ans en Afrique du Sud. La Ligue 1, elle fait son retour ce soir, 31e journée au programme. Lens, deuxième, se déplace sur la pelouse de Brest à 20h45. C'est bien sûr à suivre sur RMC.
Les courses, c'est le quintet aujourd'hui sur l'hippodrome de Vincennes à 20h15.
Le pronostic de Dimitri Blanc-L'Œil, son favori le 10, l'amour suprême, son outsider, et le 15, Léopold.